Il y aurait d'autres formes, si on voulait distinguer, d'autres formes d'idéologie à l'œuvre quand on regarde l'anthropologie et les sciences dites évolutives. On pourrait parler de patriotisme ou d'ethnocentrisme. J'y reviendrai notamment dans le cours sur l'histoire, sur ça. Je vous glisse juste une petite histoire, rapidement, l'histoire de l'homme de Piltdown, qui est une histoire en fait, qui ne se comprend que si on pige que les enjeux patriotiques sont légion quand on travaille sur les restes anciens, et notamment les restes des hominidés. L'histoire de l'homme de Piltdown, je vous la fais en hyper bref, parce qu'elle est longue, complexe et tout, mais en 1912, vous avez un type qui s'appelle... ça va me revenir tout de suite, il s'appelle... il est archéologue amateur, il trouve un crâne tout à fait stupéfiant dans le Sussex en Angleterre, et il le déterre, et puis il va le montrer au conservateur du musée local qui s'appelle Woodward. Lui, j'ai oublié son nom, c'est incroyable ça. Et donc il lui apporte et il se rend compte que il a l'air super vieux ce crâne, c'est complètement incroyable, le crâne a l'air tout vieux, tout patiné et tout, et puis il a une mâchoire tout à fait étonnante, et donc il se met à triper dessus, tout le monde s'en empare et on l'appelle Eoanthropus, alias l'homme de l'aurore, et tout le monde est ravi en Angleterre. Et tout le monde est ravi au point que très peu de gens se penchent vraiment réellement sur le crâne, tout le monde le montre partout et le montre comme une trace de la présence très ancienne des Anglais, probablement plus ancienne que les Français qui ont Cro-Magnon et les Allemands qui ont Néandertal. Il faut savoir que en 1912, c'est l'époque de la reine Victoria, c'est l'époque de l'Angleterre, de l'Empire britannique sur lequel le soleil ne se couche jamais tellement il possède de colonies, et c'est l'époque du Titanic, c'est l'époque de la grandeur anglaise. Et effectivement, si vous n'avez pas un ancêtre duquel vous revendiquez, duquel se revendiquer, et alors que les Anglais et les Allemands, eux, ont un ancêtre très très vieux qu'ils ont déterré, ça les rend un peu jaloux. Donc c'est par enjeu patriotique qu'ils se sont emparés très rapidement de ça, trop rapidement d'ailleurs, parce qu'il a fallu attendre presque 35 ans, il faut attendre 1947 pour qu'Oakley, au moyen notamment de datation carbone 14, se rende compte qu'il s'agissait d'un faux. D'un fake, d'un pur fake, quoi. Et en plus, assez facile à décrypter, même sans radiographie, même sans carbone 14, parce qu'il s'agissait d'un crâne d'Homo sapiens du Moyen-Âge qui avait été teint artificiellement, les dents avaient été un peu travaillées, et puis ils ont greffé dessus une mâchoire d'orang-outan, elle aussi patinée, colorée, etc. On n'a toujours pas retrouvé la personne qui avait fait ce canular, on ne sait pas qui c'est, il y a eu plusieurs hypothèses. Le type qui a le plus travaillé sur cette question s'appelle Herbert Thomas, et il a fait un livre entier où il explique à la fin qu'en fait il n'a pas trouvé, je ne vous dis pas la fin du livre, ouais, je vous le dis, il n'a pas trouvé l'auteur. Il y a quelques présomptions sur 2-3 personnages, notamment un personnage que vous verrez tout à l'heure qui s'appelle Pierre Teilhard de Chardin. Il y a d'autres exemples, j'en ai déjà aussi parlé, où le nationalisme poussé à son extrême, pensez au national-socialisme allemand, a fait que l'archéologie est devenue un enjeu important, notamment en archéo-anthropométrie. Et je vous ai parlé de l'Annenerbe, vous savez, cette société, Annenerbe Forschungs- und Lehrgemeinschaft, la société pour rechercher l'enseignement sur l'héritage ancestral, où l'idée c'est d'aller retrouver des traces anciennes pour montrer que la race aryenne était plus ancienne et supérieure évidemment à tous les métèques et autres, bougnoules, les machins noirâtres plus lointains, peuple primitif proche du singe, alors que, évidemment, l'Aryen, forcément, était nordique. Et donc, Himmler envoyait, je crois que je vous l'ai déjà raconté, même des campagnes d'expédition pour chercher des traces mythologiques anciennes nordiques. Je crois qu'il avait même fait une expédition pour rechercher le marteau Mjolnir de Thor. Enfin, bon, il a bien trippé, Himmler. Il est parti très, très loin. Et il y a un livre récemment, le sujet est suffisamment chaud pour quand même que les livres qui sortent sur l'histoire de l'archéologie, quand ils pointent vraiment la part que doit l'archéologie française au nazisme, je vous dis ça parce que Laurent Olivier défend cette thèse, et elle est plutôt soutenue cette thèse, elle est plutôt soutenue par pas mal de gens maintenant, il dit que jusqu'en 1942-43, l'archéologie en France était plutôt amatrice, c'était des amateurs qui faisaient ça, et l'arrivée des Allemands qui recherchaient sur le sol français des traces anciennes aussi, parce qu'au fond, sous Charlemagne, c'était un peu la même crèmerie, la France et l'Allemagne, et donc ils ont cherché dans tous les sens, et ils ont surfinancé l'archéologie. Ce qui a fait dire à Laurent Olivier que l'archéologie française doit tout au nazisme, ce qui a fait grincer quelques petites dents quand même, il y a des gens qui sont un peu fâchés avec ça. Il y a des enjeux patriotiques sous-jacents. Il y a aussi des enjeux sexistes, mais je ne vais pas revenir dessus, puisqu'on en a déjà parlé au cours précédent. Vous vous rappelez que la physiologie féminine avait été délaissée, voire diabolisée, qu'il y a des normes masculines qui sont pléthores, cachées un peu partout, que même l'historiographie est sexiste. Je vous ai mis ici la photo de cette dame-là qui s'appelle Rosalind Franklin. Peut-être vous connaissez maintenant son nom, mais pendant longtemps, elle était restée dans l'oubli. C'est la dame à qui l'on doit la double hélice de l'ADN. C'est vraiment elle qui a fait les clichés qui ont permis, par cristallographie, de trouver la double hélice de l'ADN. Mais on lui a piqué son travail. Crick et Watson, les deux, les deux parmi les trois récompensés du prix Nobel pour la double hélice, sont des gens qui ont été relativement malfaisants avec elle et qui lui ont piqué ses données. Et elle, en tant que femme, a eu beaucoup de mal à se réapproprier son travail. Et puis, des suites de ses travaux sur la cristallo, c'est probablement ça qui lui a fait contracter un cancer. Et de fait, elle est morte d'un cancer avant la remise du prix Nobel en question. Et de toute façon, quand bien même il aurait été envisagé de lui remettre le prix Nobel, on ne donne pas de prix Nobel posthume. Donc, elle a disparu des livres d'histoire et hop, a dégagé Rosalind Franklin. Voilà des exemples comme ça, et puis c'est pas le seul cas où des femmes comme ça ont disparu de l'historiographie. Rentrons maintenant dans l'évolution en tant que telle, parce qu'il se passe quand même un séisme assez monstrueux sur la planète Terre. Il se passe un séisme en 1859, et le séisme, c'est un livre qui s'appelle « L'origine des espèces » de Charles Darwin. On peut prêter à Charles Darwin, mais aussi à un autre personnage, l'émergence de la nouvelle théorie qui arrive. L'autre personnage s'appelle Alfred Russel Wallace, mais la contribution de Wallace est beaucoup moins documentée et beaucoup moins puissante que celle de Darwin. Mais jusqu'avant Darwin, il y avait déjà des histoires d'analyse, de comment les humains avaient pu apparaître. Parce que, évidemment, la question centrale pour les humains, c'est les humains. Il y a une sorte d'anthropocentrisme permanent là-dessus. Et jusqu'au XVIIIe siècle, c'était le fixisme. Ça tombait bien, ça collait très très bien aux textes religieux. Donc les textes religieux vous disaient « le monde est créé en 7 jours » ou « le monde est créé en temps de jours ». On place les espèces comme ci, comme ça, comme ça. Tout est immuable. Il y a un dieu qui a disposé tout ça dans son infinie bonté. Et les choses sont classées par ordre et ne bougent pas, quoi. Arrive Lamarck, Jean-Baptiste de Lamarck, un Français qui arrive avec un transformisme. Alors c'est déjà une bonne piste, le transformisme, c'est qu'il dit que les choses ne sont pas figées, elles ne sont pas fixes. Il se rend compte qu'il y a quand même de l'évolution et il propose une forme de transformisme que tu vas m'aider à détailler un tout petit peu. Est-ce que tu veux bien me faire 3-4 couplets sur cette question de transformisme qui est quand même déjà des augures de ce que va faire Darwin plus tard?
Oui, alors la seule différence, en tout cas le lamarckisme, alors ça revient un peu actuellement parce qu'on se rend compte qu'il peut y avoir un peu de ça dans la transmission des caractères. Ce que fait Lamarck, il va dire qu'il y a du transformisme, il y a une évolution, sauf qu'en fait, entre les générations, c'est des caractères acquis qui vont se transmettre. Typiquement, l'histoire du cou de la girafe va forcer sur son cou pour atteindre les feuilles les plus hautes, et du coup, en forçant, ça lui fait augmenter de quelques millimètres, et cette transformation, elle la transmet à sa descendance. Bon, après, on sait que majoritairement, c'est génétique, mais bon, faut savoir que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut remettre un peu au goût du jour Lamarck en se disant que maintenant, il y a l'épigénétique, et on se rend compte qu'il y a peut-être des mécanismes comme ça. Bref, ça, c'était une parenthèse. Voilà, le transformisme, c'est l'idée qu'entre les générations, il y a des évolutions.
En gros, Lamarck, il dit que si je fais des pompes et que je me fais des pectoraux monstrueux, si je fais un enfant, l'enfant, il aura des pectoraux monstrueux quand il sera grand.
En gros.
Mais ça marche pas.
Ça marche pas, mais des recherches récentes, il y a tout un champ de recherche qui se rend compte qu'il peut y avoir des marqueurs comme ça, qui se mettent au niveau du génome, qui peuvent se transmettre par l'ovule, et qui auraient en fait des transmissions qu'on appellerait épigénétiques, des espèces de marqueurs qui resteraient, qui se transmettraient
l'histoire
à la descendance.
L'histoire de la maman, l'histoire pathologique de la maman, ferait qu'on aurait tendance à retrouver certaines prédisposition chez leurs enfants de résistance à certaines pathologies.
Oui, alors ça, c'est un peu grossier de le dire comme ça. Pour l'instant, on est sur des études vraiment de choses assez restreintes. Mais bon, l'idée fait réémerger un peu de lamarckisme ces temps-ci, ces dernières années, quoi. Donc, tout n'est pas que génétique, uniquement génétique, quoi.
Très bien. Darwin, c'est pas un petit personnage. Darwin, c'est un type qui a dû aller à l'encontre de ce qu'il pensait. C'est un type qui, en plus, a mouillé la chemise, qu'il est parti, vous savez, vous connaissez peut-être son histoire, il s'est engagé sur un bateau, il est parti faire un tour qui lui a pris un certain nombre d'années, il a collecté plein de coléoptères, plein de machins, plein de trucs dans tous les sens, il a construit sa pensée, et il trouvait que sa pensée, qui ne nécessitait plus l'hypothèse Dieu dans la description des phénomènes, était trop subversif pour son époque, et s'était d'abord contenté de documenter ses publications scientifiques, mais sans construire son corpus théorique. Il a fallu que ses collègues le poussent, et le poussent même contre sa famille, en fait, notamment sa femme, qui était plutôt rétive à l'idée qu'on évince Dieu des processus. Et il a dû se faire violence, parce qu'il n'avait pas trop envie de faire ça. Ça lui a valu ensuite, une fois qu'il a publié son travail, un monceau d'ennuis absolument incommensurable. Et il a résisté à tout ça, patiemment, gentiment, tout en étant, ce qu'il faut le dire, progressiste. sur les mœurs, à peu près surtout aussi bien sur les droits des animaux que sur le droit des femmes, ce qui est quand même rare pour l'époque, il faut bien le dire. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la sélection naturelle? Qu'est-ce qu'on voit dans cette idée de sélection naturelle qu'a développée Darwin? On voit qu'on parlerait plutôt au départ, dans notre imaginaire, nous, c'est genre, il y a une main qui sélectionne les individus qui vont survivre. Et nous, entre nous, des fois, on parle de tamis. Pourquoi on parle de tamis plutôt?
Le tamis, il laisse l'idée qu'il y a déjà de la variation qui existe, il y a de la diversité qui existe, a priori. Donc, de toute façon, ça se voit, ne serait-ce que dans un amphi. Hein, il y a de la diversité, on n'a pas tous les mêmes caractères. Et que le tamis, en fait, il va trier ses caractères déjà existants. Donc, en gros, tout est après dans l'idée du tamis. Le tamis, ça va être en quelque sorte l'environnement quoi, qui va sélectionner.
Un tamis, c'est un grand tapis avec des trous, quoi. Hop, et puis on se promène sur le trou et sur le tapis. Et puis si on traverse, si on n'est pas adapté à notre milieu, on aura tendance à moins se reproduire et donc notre descendance va disparaître dans le trou, quoi.
C'est ça.
Très bien. Le hasard des mutations m'as-tu proposé d'écrire comme carburant, la sélection naturelle comme moteur. C'est une très belle phrase, c'est toi ça?
Je sais pas, non, je suis pas sûr. Mais le hasard des mutations, alors c'est pareil, c'est un peu pour faire simple, hein, comme s'il n'y avait que la mutation qui générait de la nouveauté. Alors là, ce que je viens de dire sur le tamis, il y a de la diversité préexistante. Bon, bah, c'est bien, mais à un moment, on se pose la question, mais elle sort d'où cette diversité? Donc effectivement, il faut se poser la question des origines, d'où viennent les nouveaux caractères, choses comme ça. Donc les mutations, c'est ce qu'on connaît le mieux. Mais il faut savoir qu'actuellement, en fait, il y a plein de moyens différents pour générer de la nouveauté, enfin, qui existent et qui génèrent de la nouveauté, des transferts horizontaux de gènes entre espèces. On pourrait même appliquer ce même raisonnement aux comportements animaux. Il y a plein de choses qui existent autres que les mutations, même si c'est le principal agent de nouveauté.
Ok, mutation. Dans la catégorie mutation, on rangerait quoi? Innovation génétique. Phénotypiques, c'est-à-dire les formes de notre corps, quoi, les formes de nos organes, et puis les comportements.
Ouais, donc j'ai pris un peu d'avance sur ça. Ouais, c'est innovation. En fait, innovation, c'est un terme qui innovation, ça fait un peu comme si c'était voulu, quoi. Mais bon, c'est un terme, c'est l'acception, c'est innovation, quoi. Alors innovation génétique, c'est essentiellement les mutations, mais après phénotypique, comme on disait, les changements. Alors le phénotype, c'est l'aspect, c'est les caractères d'un individu. Le phénotype, il se transmet pas. Normalement, à la descendance. Sauf le bémol que j'ai mis tout à l'heure sur l'épigénétique. Puis les comportements, pareil, hein, ça marche.
Alors quand on dit phénotype, par exemple, c'est l'exemple que Darwin aimait bien, là, l'exemple des papillons qui sont plus blancs et qui sont... Certains sont blancs et dans un contexte de sidérurgie et d'industrie du charbon, ils ont tendance à plus survivre et à mieux ceux qui sont noirs ont plus tendance à survivre sur des troncs noirâtres,
c'est ça,
que les blancs. Donc les blancs sont objets de prédation, ont tendance à disparaître et seuls les noirs survivent.
Ouais, alors ça c'est quelque chose qui a été documenté, mais bon, c'est un peu tardif. Je sais pas si c'est, enfin, en plus ça peut plus vraiment se refaire parce qu'il y a plus de pollution, mais effectivement
il y a
plus de pollution,
bien dit, messieurs.
Lié à l'économie du charbon en Angleterre, pardon, qui a tendance à faire des troncs foncés, quoi, et à plus être suie, quoi. Donc du coup, il y a des bémols sur ces expériences, mais n'empêche, ça a été testé, mesuré, l'effet de la prédation. Effectivement, les oiseaux voient mieux les papillons blancs sur des troncs foncés pleins de pollution, pleins de suie. Et du coup, on s'est rendu compte qu'ils avaient plus tendance à les manger. S'ils les mangent plus, ces papillons blancs, ils vont moins se reproduire. Et les noirs vont plus se reproduire. Du coup, on a bien vu qu'en presque 50-60 ans, on est passé de zéro individu foncé à quasi 100%.
Une mutation ne prendra que si son porteur en tire un bénéfice dans l'accès aux ressources, et cela avant la période de reproduction. En gros, ça veut dire que si moi je suis un individu d'une espèce et que je développe une mutation, si cette mutation m'apporte un avantage en termes de recherche de bouffe, en termes de reproduction, de séduction envers les individus femelles de mon espèce, alors j'augure d'une plus grande capacité de descendance, et donc le trait... La mutation en question, j'aurais tendance à la transmettre à mes enfants.
Ouais, alors au bémol près que la mutation, tu l'acquiers pas en fait, tu nais comme ça. En fait, on choisit rien. Et c'est ce qui permettra aussi de bien faire gaffe à essayer de pas mettre le mot pour. Parce que j'ai une mutation pour faire quelque chose, non, en fait, on naît avec, on décide pas de ça. Donc en fait, la mutation, elle préexiste à l'organisme. Et puis en fait, l'individu qui a un petit avantage lié à cette mutation ou... autre chose, hein, ce nouveau comportement qui va faire peut-être par hasard ou j'en sais rien, plein de choses possibles. S'il y a un avantage, il va peut-être mieux survivre, donc possiblement mieux se reproduire. Mais c'est pas forcément, vous pouvez très bien imaginer des situations où des individus survivent mieux, mais pour autant, je sais pas, ont une mutation délétère qui leur font ne pas se reproduire. Bon bah leur super mutation de survie, elle va pas rester quoi, elle va disparaître, parce qu'ils pourront pas par ailleurs se reproduire.
En fait, le point important, c'est... Ils vivent 150 ans, mais les stériles, quoi.
Par exemple. Okay. Donc, cette super mutation pour vivre 150 ans ne va pas se transmettre aux générations suivantes. Elle va disparaître. Enfin, le point important, c'est ça. C'est, je ne sais pas ce qu'il y a juste derrière, mais...
Ce qu'il y a juste derrière,
ouais, c'est... ça, ouais. C'est pour insister sur le fait qu'au final... Voilà, on ne va pas dire que les individus les plus aptes, les plus forts, survivent... Enfin, sont sélectionnés. En fait, c'est les individus qui arrivent à mieux se reproduire que les autres. En gros, c'est ça. Par n'importe quel moyen, n'importe quel type d'avantage, d'où les avantages de la sélection dite sexuelle, notamment chez les oiseaux, voilà, des belles parures, des choses incroyables qui en fait ne servent pas à leur survie en tant que telle, mais augmentent leur capacité de reproduction. Bon, en fait, voilà, j'ai lentement hésité avant de mettre ça, mais si on veut essayer de le faire vite, en gros, chaque ligne, chaque colonne, ça serait une génération. Et là, on se rend compte que, par exemple, à un moment, on peut avoir certains variants, des nouveaux caractères qui arrivent. Alors, ça, les boules représenteraient des individus, hein, et puis les caractères, les couleurs différentes. Au bout d'un moment, il y a peut-être une couleur différente qui va mieux se reproduire que les autres, si on remarque. Et puis, juste avant le pointillé, ben, on voit que la majorité, c'est du... Parce que moi c'est l'horreur pour moi, je suis daltonien. C'est...
Oui, en fait, nous avons un mutant avec
nous. Je vois pas son pointeur
nous.
Rouge, en fait.
Il a une mutation qui fait qu'il ne voit pas le laser rouge. Donc, je suis préposé au laser rouge. Je ne sais pas si ça va augurer de sa capacité reproductive.
J'espère pas.
Il y a là, voilà, là, les bleus.
Hein, c'est du bleu.
Voici les bleus. Je montre okay, les bleus. Là. Il y a beaucoup de bleus.
Donc, les bleus sont devenus majoritaires. En fait, ils sont devenus majoritaires simplement parce qu'ils sont mieux reproduits. Pourquoi, comment, par différents moyens, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ils sont devenus majoritaires. Bon, après, on peut imaginer catastrophe, tout le monde meurt, voilà. Mais puis après, ça peut être d'autres. Donc, on voit qu'une espèce, c'est une photo de famille, il y a de la diversité, et qu'on dit qu'il y a des caractères moyens. En gros, juste avant les pointillés, ben, l'espèce, ce n'est pas des bleus, parce qu'il y a aussi d'autres. Mais majoritairement, ils sont bleus. Bon, voilà, l'idée, c'est de bien garder en tête que... l'évolution d'une population, d'une espèce, se fait par l'augmentation du taux de reproduction des individus les plus aptes à se reproduire. Et c'est plus sympa que les individus les plus aptes à survivre ou être les plus forts ou à mieux manger les autres en tant que prédateurs ou des choses comme ça.
Les erreurs d'interprétation maintenant. Alors, voici un arbre assez particulier qui va nous servir de refrain. Je te pose la question, le darwinisme, c'est la loi du plus fort ? Comme on dit tout le temps.
Du coup, comme on vient d'en parler, a priori, c'est pas forcément la loi du plus fort.
C'est celui du plus adapté à son milieu.
En tout cas, du plus adapté à son milieu à un instant donné, parce que le milieu peut changer. C'est bien tout le problème.
Très bien. Est-ce que, pour on parle de théorème et pas de théorie, en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que la théorie est très très solide, et on parle de théorème justement pour pas tomber dans l'effet paillasson, vous savez, ce glissement de mots entre le sens commun et le sens scientifique. Et que théorie, c'est pas mou, vous voyez, c'est pas forcément mou. La théorie de la gravitation est quelque chose de très solide, la théorie de l'évolution aussi. Les espèces luttent-elles pour leur survie, cher ami ?
Alors,
on dit souvent ça.
Oui, les espèces luttent-elles. Alors là, il y a plus. Enfin, c'est super intéressant, c'est le genre de phrase que vous voyez à chaque fois dans les reportages animaliers ou choses comme ça, où il y a des raccourcis de langage qui laissent justement des conceptions vraiment mauvaises. Typiquement celle-ci, les espèces luttent pour leur survie.
Mais les martres, par exemple, tu vois, elles se battent pour leur survie. Tu vois.
Oui, mais toutes entre elles, elles se sont mis d'accord et elles se sont dit ça marche bien pour survivre. Toutes entre elles, alors il y a un problème, c'est l'espèce lutte pour. Bon, en fait, l'espèce, tous les coléoptères du Botswana ne se sont pas mis d'accord pour lutter pour leur survie. Voilà, la première chose, c'est qu'on ne se place pas au niveau de l'individu. Et puis après, il y a le pour. En fait, ça veut dire qu'on choisirait nos caractères pour survivre. Sauf qu'on a dit tout à l'heure qu'en fait, on ne décide pas de nos caractères. On est avec, point. C'est comme ça, on n'y peut rien, on est avec. Donc, il n'y a pas de pour, il n'y a pas d'intention.
Le darwinisme social, on entend parfois ça, vous avez déjà entendu ça peut-être, le darwinisme social qui ferait que, par exemple, il est légitime que les patrons dirigent le monde parce que les patrons ont réussi dans ce monde, et donc c'est-à-dire que c'est les plus adaptés à leur milieu, alors que les pauvres, qui sont vraiment des ploucs et des tout sales, et descendants, eux, ne méritent vraiment pas qu'on les aide, en fait. Il y a des programmes qui ont été développés, notamment par un type qui s'appelait Spencer, dans les années 20, qui disait qu'il fallait arrêter de donner des allocations familiales parce qu'on encourageait les fins de race, en quelque sorte, à se reproduire, alors qu'en fait, il valait mieux plutôt faire se reproduire l'élite du pays. Est-ce que c'est du darwinisme, ça ?
Bah, c'est pas du darwinisme du moment où en fait on influe déjà sur le mécanisme. C'est-à-dire si l'homme décide lui-même des changements d'environnement, des mesures qu'il va prendre, bah il y a quelque chose un peu de tautologique qui se mord la queue. Là, on a, c'est en fait on n'est plus enclin à la sélection naturelle en tant que telle, quoi.
Ok. Et j'ai marqué l'humain est-il en haut de l'arbre de la vie ? Alors je vous montre avec mon petit laser. Voici un arbre de la vie, assez classique. Et en haut l'homme, ici. Est-ce que l'humain est-il en haut, est-ce qu'il est en haut de l'arbre de la vie, cher ami ?
Bah oui, c'est ce qui est sur le document.
Sur le dessin, voilà. Est-ce que cette représentation-là tient la route ?
Moi, ça me va bien. Alors, cette représentation, elle est ancienne et elle a duré très très longtemps encore. Il y a un premier problème, c'est que l'arbre, il s'enracine déjà, il a une base. Il est enraciné à la base, comme s'il y avait des traits ancestraux qui aurait arrêté d'évoluer. Mais en fait, tous ceux qui sont notés à la base, là, en fait, c'est des actuels, hein. C'est pas des fossiles. Hein.
Les éponges, les
voilà,
vers.
Des éponges. Là, là, là. Mais comme s'ils étaient restés à une échelle et ils n'auraient pas continué d'évoluer. Et du coup, tout en haut, ben, forcément, on met l'homme, mais ça, pareil, c'est subjectif. On a pris les caractères de l'homme, on a tout fait en référence à l'homme, mais en fait, on pourrait faire exactement la même chose avec la myxine, ce qui est sur la gauche, là, ou les pétrométonzantines.
D'accord, je vois que tu lis bien. En fait, non, mais... il me semble que vous avez eu la chance par rapport à moi ou lui, par exemple, de... Moi, j'ai étudié ça à l'école. J'avais l'arbre, vous voyez, avec une direction probablement divine qui était donnée donc, par une impulsion probablement divine qui dirigeait vers l'humain. Et on se rend compte, en fait, il n'y a aucune raison de mettre l'humain en haut, parce qu'en fait, l'argument de dire bah, tout a congrué pour que l'humain soit ici, un lombric pourrait tenir le même discours, ou un géranium aussi. Le géranium pourrait dire, bah non, regardez, en 2017, je suis là aussi, moi, donc je suis aussi le couronnement de l'évolution. Ce qui fait que vous, je crois que dans vos bouquins, vous avez étudié le buisson, c'est-à-dire cette forme sphérique-là, et qui représenterait au milieu l'ultime ancêtre commun, que vous appelez Lucas, je crois, dans votre jargon, les branches qui s'arrêtent, les espèces qui se sont éteintes au fur et à mesure, et en surface, toutes celles qui nous sont contemporaines maintenant, sans aucune direction privilégiée, sans tronc. Alors ensuite, dans les erreurs d'interprétation, vient la question de la linéarité. Le processus est-il linéaire ? Alors il y a des représentations que vous avez déjà vues, genre ça, il y en a une sur mon t-shirt aussi d'ailleurs, il y a celle-ci qui est une variante, qui, voilà, vous avez déjà vue, encore une autre, voilà. Et celle-ci qui intéressera peut-être ceux qui travaillent sur les discriminations. Il y a quelque chose qui cloche là, non ?
Bah du coup, ça revient à la notion de chez nous manquant, dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'en fait, l'image du haut, entre le singe et l'homme, c'est quoi ? C'est un intermédiaire. L'australopithèque, c'est un intermédiaire entre les deux. Enfin, c'est pas clair, quoi. Si à gauche, on a un singe et à droite, l'homme moderne, on peut pas faire une continuité nette entre les deux. Les deux étant actuels.
Ok, très bien. Ça veut dire que le dessin animé que j'adorais regarder quand j'étais petit, il était une fois l'homme, le générique est faux. C'est vraiment...
Là, clairement, on voit la linéarité, comme s'il n'y avait qu'une seule direction, un seul processus possible, comme si ce qu'on dirait que c'est non contingent, quoi. Il n'y a pas d'autres options. On sait que ça va aller vers l'explosion de la Terre, apparemment. Enfin, voilà, il y a une direction, une seule.
J'ai un documentaire à te montrer, à soumettre à tout le monde ici, qui porte presque le même nom que le précédent. Le précédent s'appelait Espèce d'espèce, et ne confondez pas, car celui que je vais vous montrer contient un nombre d'erreurs absolument inouïes, et il s'appelle L'Odyssée de l'espèce. Il a été notamment réalisé par Jacques Malaterre en 2003. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'était des images de synthèse et tout, ça a fait triper tout le monde à l'époque. Et il y a un passage qui vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Qu'est-ce qui va pas là-dedans ?
Après, quand on est prof de SVT, c'est tellement dur. Tout ça, ça marque les esprits. Ce qui pose problème là-dedans, c'est la notion d'intention et surtout que la structure de l'individu ne préexistant pas. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, on ne dit pas comment il est né, quelle orientation des fémurs il avait de différent des autres, etc. Bon, déjà, il y a cette première chose. Et la deuxième chose, l'intention, comme si en fait l'individu décidait de son destin et pouvait tout d'un coup se lever parce qu'il avait juste l'envie, quoi. Non, en fait, il y a eu certains individus qui avaient des capacités qui leur ont permis effectivement de se mettre debout. Donc voilà, là il y a un peu trop d'intentionnalité, quoi. Et il y a des pour de partout, je pense. Il a besoin pour voir, il a besoin de se mettre debout, quoi.
Donc on n'est pas devenu bipède comme ça avec des violons d'un coup.
En plus, au-delà de ça, on a l'impression qu'il y a un seul, à un moment, qui est devenu bipède. Il y a un ancêtre commun. En fait, on simplifie quand on parle d'ancêtre commun. On dit un, mais en fait, il est hypothétique. C'est un schéma, c'est un portrait robot, quoi. Là, il n'y a jamais un seul individu. C'est des populations qui se modifient. Lui, il a sûrement eu plein de descendants. L'autre également, d'à côté. Bon, c'est plus compliqué qu'un seul individu, quoi.
Ça fait des dégâts, ce genre de choses. Tu voulais dire, en passant à la diapo suivante, ce qui va se lancer ici, que l'homme ne descend pas du singe, puisque, tu l'as déjà dit tout à l'heure, le singe est contemporain, donc on ne peut pas descendre du singe. D'accord ? Et après, tu montrais un arbre ici, l'ordre des primates et tout, et tu me disais à l'oreille, oui, il faut bien que je précise quand même que nous sommes des singes.
Ben voilà, c'est fait.
C'est fait ?
Merci.
On fait partie d'une catégorie qui s'appelle quoi ? Les hominidés ?
Alors, ça dépend, nous sommes des mammifères.
Ok.
Bon, en fait, ça, tout dépend de d'où on va se placer, quoi. Parce qu'en fait, nous sommes des eucaryotes, on a des cellules avec des noyaux, mais tout dépend de l'échelle. Donc, juste pour dire que, enfin, on serait des simiformes, quoi. En fait, tous les primates, comme on l'entend habituellement. Mais tout ça pour dire que la vue avec le singe vers l'homme, ça marche pas, parce qu'en fait, nous sommes dans la même famille, quoi. Simiformes. Puis après, si on réduit le groupe, on va avoir des hominoïdés, des homininés, des hominines, etc.
Nous sommes une grande famille. Très bien. Ça, on en a déjà parlé. Passons à l'énigme. Une énigme. Selon vous, quel changement phénotypique de l'humain, c'est-à-dire quel changement d'un point de vue organique, peut-on prévoir dans les siècles à venir ? Parfois, j'entends le lobe de l'oreille va disparaître, par exemple. Parfois, on entend... Le petit doigt de pied qui va disparaître parce qu'il est très chiant, parce qu'il se cogne toujours sur les commodes. Plaf, aïe. Quoi d'autre ? Les dents de sagesse qui vont fondre, qui vont tomber, qui vont disparaître. Autre chose ? L'appendicite. Alors, c'est une maladie. L'appendice qui... Ok, très bien. Le coccyx ? Plof, il tombe. Ok. Autre chose ? Eh bien non, chers amis, ça m'a valu un jour un repas de famille tout à fait animé. Mais malheureusement, non, ce n'est pas le cas. Là, vous êtes tombé dans le piège du lamarckisme classique. Alors, vous n'êtes pas les seuls, tout le monde fait ça. Moi aussi, le premier, je suis tombé là-dedans et tout. Ça, c'est une représentation que le Sun, c'est un journal qui n'est pas forcément très pointu sur le plan de la biologie, présentait comme étant l'avenir de l'humain, vous voyez. Petit cerveau, parce que plus besoin de beaucoup s'en servir. Petits intestins, parce qu'on boit que des sodas, etc. Des grandes mains, généralement, pour mieux pianoter sur nos téléphones et ce genre de choses. Voûté, parce qu'on travaille beaucoup sur l'ordinateur. Et des dents, plus ou moins, délaissées, quoi, puisqu'on mange que des aliments.
Un petit cerveau, parce qu'on a une externalisation de notre pensée avec Google et tout ça.
C'est ça.
Imagine, c'est ça. Ouais, c'est un cerveau externe, le smartphone.
Ouais. C'est peut-être ça.
OK.
Pourquoi c'est faux, Julien, ça ? Pourquoi on ne va pas perdre nos petits doigts de pied et nos lobes de l'oreille et notre coccyx et tous les trucs chiants, là ?
Alors, toujours pareil, pour qu'un changement de caractère se propage au cours des générations, il faut qu'il permette quoi ? Enfin, ouais, c'est ça, plus de descendance, quoi. Donc, en gros, il faudrait penser que l'individu qui a plus de petits orteils, il va mieux se reproduire que les autres, quoi.
Il faudrait que ça devienne sexy, quoi, c'est ça ?
Ouais, il faudrait que ça soit des attributs, effectivement, mais encore une fois, là, la question se pose dans l'espèce humaine, est-ce que ça serait quelque chose à tester ? On pourrait mesurer, on pourrait prendre tel caractère et voir si dans la population, les individus qui ont tel caractère ont plus de descendants. Mais en fait, on se rend compte que de plus en plus, la natalité est de plus en plus faible, la différence entre les familles en termes d'enfants n'est pas énorme. Bon, on n'est plus vraiment soumis à la sélection naturelle, à vrai dire, quoi.
On n'est plus vraiment soumis à la sélection naturelle. Pourquoi ? Parce qu'on a éradiqué quasiment tous nos prédateurs, c'est ça ? À part quelques virus qui, de temps en temps, viennent nous embêter.
C'est ça. Mais bon.
Donc on pourrait voir des mutations liées à ça. Des résistances à des paludismes, des résistances à des sida.
Tout à fait. Mais encore faut-il que les personnes résistantes se reproduisent mieux que les autres. Je suis pénible,
exact.
Hein.
Mais... Exact. C'est vrai,
au
ça.
Au final.
C'est pour ça que nous avons écrit en dessous. L'humain n'est pratiquement plus soumis à une pression de sélection. D'ailleurs, j'ai récemment lu un livre extraordinaire sur la bête du Gévaudan, qui est un des sujets sur lesquels je travaille, et j'ai vu le nombre d'enfants mangés par des loups pendant les années 1750. C'est assez inouï. Hein. La prédation n'est plus vraiment la même sur nous maintenant. Hein. Et j'avoue que je ne le regrette pas beaucoup, même si le loup est revenu en Chartreuse, je tiens à souligner. La nature est-elle bien faite ? Là, tu m'as dit, il faut absolument parler de ça, la nature est-elle bien faite ? Et tu voulais absolument parler de ton ichneumon.
Ben oui, parce que l'ichneumon, c'est juste magnifique. C'est un insecte qui...
Hyménoptère, c'est ça ?
Hyménoptère, ouais, un peu comme... Enfin, c'est une guêpe parasitoïde, en fait. Alors, c'est faut se mettre à la place du petit ver qui est en dessous, de la chenille. En fait, les parasitoïdes, ils pondent des œufs dans d'autres espèces, d'autres individus. Alors, ce qui est super sympathique, c'est qu'après, les œufs se développent dedans et puis ils se nourrissent de l'intérieur de la bestiole. Et puis, voilà, ils s'en nourrissent de l'intérieur.
Elle est charmant.
Et elle est vivante, oui, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, ça fasse un peu trop pour elle, quoi. Donc voilà, la nature est-elle bien faite? En tout cas, elle n'est pas toujours très sympa. Et là, on a l'un des exemples. Enfin, il y en aurait plein des comme ça, de choses pas sympas dans la nature.
En fait, elle est ni sympa ni pas sympa. Elle n'est pas vraiment. Il n'y a pas d'intentionnalité dans
la
nature.
Alors ouais, il n'y a pas d'intentionnalité parce que souvent on nous présente, par exemple, je sais pas, le guépard. Là, tout est bien organisé dans cet organisme pour qu'il puisse courir à 110 km/h. J'en sais rien, etc. Mais en fait, tout dépend de l'environnement. Si à un moment les antilopes courent plus vite, le guépard, il sera bien gentil, mais même avec tout ce qu'il a, il sera pas forcément bien fait. S'il y a plus d'antilopes, non plus.
C'est pour ça que tu prenais cette phrase de Dawkins qui disait « Dieu s'amuse-t-il ? Est-il sadique ?»
Ouais.
Si vraiment c'est lui qui a créé ça, s'il a créé l'ichneumon, peut-être serait-il sadique. C'est une réflexion que fait Dawkins, qu'on vous laisse maturer. La nature est-elle bien faite chez l'humain? Tu disais oui, franchement, tu me disais ça un soir de beuverie, tu me disais quand même, on est quand même mal foutu, qu'est-ce qu'on n'a pas d'ailes,
bah, ouais,
tu te plaignais.
Non mais c'est ça, on peut toujours imaginer, voilà, oh, c'est quand même bien fait, on prend toujours des exemples, oh, le système immunitaire c'est quand même bien fait, ça marche bien. Visiblement pas vraiment, hein, parce que bon, le taux de mortalité baisse, mais... Bon, je sais pas, c'était 400 000 morts par an en France, la variole, je crois. Enfin bon, ça marche pas si bien que ça, en fait. Et puis on pourrait même imaginer qu'on pourrait avoir des choses qui... Enfin, ce serait super chouette d'avoir des ailes, quand même. C'est pas si bien fait que ça. C'est quand même pénible de marcher jusqu'au centre-ville quand on a loupé le dernier tram, quoi. Vous voyez, enfin, bon. Moi, à chaque fois, j'essaie d'inventer des nouveaux caractères qu'on n'a pas et qui seraient bien mieux.
Par exemple, tu mets pas beaucoup de poils. Tu rêverais d'être plus poilu, c'est ça?
Je sais pas. Moi, j'ai eu un TPE il y a pas longtemps, justement, d'élèves qui imaginaient bah, pourquoi il n'y a pas d'animaux avec des roues. Bon, ils ont complètement craqué, hein, mais la question était bonne. Et la question était bonne. Pourquoi pas, hein?
Par contre, on a plein de trucs qui font chier, si j'ose dire. Alors, le petit orteil, on en a parlé. Les sinus, dont la fonctionnalité n'est pas tellement évidente maintenant, qui sont un héritage, ce qu'on appelle les organes vestigiaux, quoi, les trucs qu'on traîne, qui ont pu avoir une utilité avant. Et qui n'en ont plus pour nous.
Alors, qui ont pu avoir une utilité ou pas, pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de parties d'organes qui n'ont jamais forcément été utiles, mais si elles ne sont pas très coûteuses à produire ou autre, bon, ben, elles restent comme ça. Alors après, effectivement, il y a des organes... le développement embryonnaire, c'est assez compliqué, mais en gros, on passe tous par le même stade de développement au début. Même stade de développement que par exemple des espèces plus lointaines, et puis au final ça évolue différemment au cours du développement embryonnaire, et donc il y a des organes qui peuvent paraître vestigiaux parce qu'ils se développent plus chez des poissons et chez nous ils restent, bon, ils s'arrêtent de se développer, vous voyez. Donc on a des arcs branchiaux, en fait, les branchies, quoi. Mais en fait ils se développent pas, les arcs branchiaux, mais bon, c'est dur dans l'anatomie humaine de les déceler, mais bon, dans le développement, on voit qu'ils arrêtent de se développer.
Un reste d'anciennes pointes, d'anciens félins, reste sur pas mal d'oreilles. On appelle ça le bourrelet de Darwin, figure-toi. Je sais pas si tu savais ça.
Ben
c'est petite, t'en as un petit bout là.
Chaque fois, il me parle
t'as
pas
un petit reste de bourrelet de Darwin.
Ouais, ouais.
Et puis j'ai trouvé aussi le plis semi-lunaire. Figurez-vous que c'est le petit machin un peu rosâtre, un peu moche là, qu'on a à l'angle de l'œil, et qui est en fait un vestige de la paupière nictitante. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est cette espèce de troisième paupière qu'ont certains oiseaux et pas mal de reptiles. On les voit bien sur les crocodiles. T'sais. Un machin qui vient protéger là, qui serait très pratique pour faire de la plongée, par exemple. Puis en fait, nous, ça s'est pas développé. C'est
très
con, quand
bon.
Même. C'est con, quand
je
même.
Je ne savais pas.
Le plis semi-lunaire, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, il y a une phrase d'un zoologue pendant le Processcopes qui disait « Il n'y a pas moins de 180 structures vestigiales dans le corps humain, ce qui est suffisant pour faire d'un homme un véritable musée d'antiquité ambulant. » J'aimais bien cette phrase.